se faire plaisir, toujours au bon prix, chez Auchan. Jusqu'à lundi, 68% de remise immédiate sur la deuxième boîte de capsules de lessive Homo 3 en 1.
À 22 centimes la lessive, je veux bien faire celle du voisin.
Eh ben comme ça, tout le monde est content. Auchan, avec plaisir. 11,87€ les deux boîtes de lessive Homo Monoï au lieu de 17,98€. 8,99€ la boîte vendue seule, soit 12,71€ le kilo. Existant d'autres variétés valables sur le moins cher dans vos magasins et drive Auchan participants et en livraison à domicile. Produits dangereux, respectez les précautions d'emploi.
Vous écoutez
RMC. Face à face.
Apolline de Malherbe.
8h33 sur RMC et BFM TV. Bonjour Fabien Roussel.
Bonjour Apolline de Malherbe.
Merci d'être là ce matin. Vous avez veillé tard comme nombreux et comme tous les Français hier soir. Vous êtes le secrétaire national du Parti communiste. Vous êtes député du Nord. Vous avez oublié votre maillot ce matin, mais vous m'aviez même dit si on gagne, je viens avec le maillot. On va la gagner là. On va la gagner.
J'espère. Toutes tes conditions sont réunies. J'espère assister à une belle finale, qu'on la remporte. Mais hier, on a assisté à un superbe match. D'abord, ça fait du bien dans ce moment un peu difficile, très difficile que vivent les Français, d'avoir ce moment de bonheur, d'amitié, de fraternité. Moi, je suis fier des Français qu'ils aient supporté l'équipe du Maroc ou l'équipe de France, de voir tous ces gestes d'amitié, ces accolades, cette liesse à la fin. C'était une belle image et un beau match avec une équipe marocaine vraiment au top. Ils méritent leur place en demi-finale. Ça a été difficile pour nous. Je les salue parce que ils ont joué un match remarquable.
Ils ont joué un match remarquable. Ce que j'aime bien, c'est que immédiatement, moi aussi, je joue le jeu en vous posant la question. Finalement, on dit qu'il faut pas politiser le sport. Emmanuel Macron lui-même disait non, on politise pas, Évidemment, on politise. Bon, lui-même politise, vous politisez, on politise tous.
J'ai fait de la politique.
Non, je sais pas, un peu de fierté, on se dit ça fait du bien dans ce moment.
Mais tout simplement parce que quand on regarde un match de foot comme je l'ai fait hier soir, on était place du colonel Fabien, on avait un documentaire.
Et le siège du Parti communiste.
Le siège du Parti communiste français, on avait l'écran, on a regardé ça tous ensemble. Après un documentaire sur Georges Marchais, on avait organisé un débat.
C'est bien, d'accord.
Mais Georges Marchais était un grand fan
de
foot.
C'était une soirée très complète pour le Parti communiste.
On lui a rendu hommage aussi. Mais en fait, le foot a ça de magique, c'est que il y a de l'émotion, il y a de la tension, il y a de la surprise, il y a de la passion. Au final, là, il y a la joie, et on se retrouve tous. Donc, c'est un moment de fraternité, d'amitié énorme pour un pays.
Vous auriez été vous
et
au
hier,
Qatar.
Hier, c'était un peu comme un derby quand même. Il y avait de l'enjeu, quoi.
Vous auriez été au Qatar.
Si j'étais président de la République, je crois que j'aurais d'abord veillé aux conditions du chantier. 6500 morts dans ces stades pour les bâtir. J'aurais formulé de grandes exigences. Certainement que si j'avais été à la place de Nicolas Sarkozy, je n'aurais pas fait en faveur de l'attribution de cette Coupe du Monde au Qatar. Mais vous savez, il y a ça. Mais de l'autre côté, je l'ai déjà dit, je me suis déjà prononcé là-dessus, il y a cette convention fiscale intolérable entre la France et le Qatar qui fait que le Qatar bénéficie d'une forme d'exemption fiscale qui est intolérable, pas justifiée. On fait des cadeaux au Qatar, des cadeaux fiscaux, avec on leur permet de ne pas payer d'impôts sur les plus-values immobilières. C'est le troisième ou quatrième pays à qui on exporte le plus d'armes. Il y a des liaisons dangereuses avec ce pays que je dénonce, que nous dénonçons. Et voilà. Et ça, c'est de la politique.
Mais hier soir, vous auriez été ou vous n'auriez pas été ?
En tant que président de la République, moi, j'aurais préféré afficher un boycott diplomatique auprès de cette Coupe du Monde. Le ministre des Sports, il sera allé pour représenter la France, mais j'aurais formulé en amont des exigences fortes. Et d'ailleurs, nous plaidons, nous, pour qu'il y ait une agence internationale indépendante qui puisse décider de l'attribution de ces grandes manifestations sportives avec des normes sociales et environnementales pour permettre à ce que ces grands événements sportifs soient aussi le reflet des valeurs que l'on puisse porter à l'échelle de la planète.
Boycott diplomatique, si vous aviez été président. Donc, le ministre, en l'occurrence la ministre des Sports, oui. Le président, non. Fabien Roussel, du point de vue de la sécurité, alors qu'il y avait beaucoup de débordements redoutés, il y a eu certes quelques débordements, mais globalement des scènes de liesse et de joie. On déplore évidemment la mort d'un jeune homme de 14 ans en marge de rassemblement post-match à Montpellier, un chauffard qui a foncé dans la foule et qui est toujours recherché. Globalement, il y a eu certes des interpellations, 167 interpellations, dont 45 à Paris. Dans le reste du territoire, 95 interpellations, 87 gardes à vue. Est-ce que vous diriez que la sécurité a été maintenue hier soir ?
D'abord, la soirée a été effectivement endeuillée par ce drame à Montpellier. Et je souhaite adresser mes plus sincères condoléances à la famille de ce jeune garçon qui fêtait la victoire, apparemment. Mais par ailleurs, enfin, Madame de Malherbe, excusez-moi, mais enfin, ce que l'on retient, c'est d'abord des grandes scènes de joie, de manifestations populaires où tous ensemble, que l'on ait soutenu l'équipe du Maroc.
Et les drapeaux d'ailleurs se mélangeaient. Hein.
Voilà. C'était la fête. Enfin, moi, je vois dans le bassin minier où les mineurs marocains étaient aux côtés des mineurs polonais, français, qui travaillaient tous ensemble durement. Leurs enfants étaient hier ensemble dans les cafés et on vit ensemble et on a fait la fête ensemble. Chacun supportait son équipe, mais à la fin, on a tous bu des coups ensemble. Et c'est d'abord cette fête-là que l'on doit retenir et que je retiens. Et d'ailleurs, ceux qui vont pronostiquer des affrontements, des échauffourées, etc., au final, ça a été mineur et il faut retenir cette immense fête populaire qu'il y a eu dans le pays.
Il y a eu une quarantaine de militants d'extrême droite qui ont été arrêtés dans le 17e arrondissement à Paris, alors qu'ils se rendaient sur les Champs-Élysées où ils avaient prévu, je les cite, d'en découdre. Cet affrontement, la maire du 8e avait dit redouter des scènes de guerre civile. Elles n'ont donc pas eu lieu. Ces hommes ont été arrêtés avant même de se rendre sur les lieux. Vous dites bravo la police là-dessus ?
Ah oui, bien sûr, bien sûr. Mais effectivement, là où il y a eu peut-être des échauffourées, elles ont été parfois provoquées par des militants d'ultra-droite. Il y a eu des appels à Strasbourg, d'ailleurs, sur les réseaux sociaux.
Il y a eu des arrestations à Paris et à Strasbourg et à Lyon.
Je salue les forces de sécurité qui ont pu les déjouer en amont ou tout de suite pour permettre à ce que l'on puisse avoir effectivement ces scènes de liesse et de joie tous ensemble.
Fabien Roussel, est-ce que vous êtes toujours aussi à l'aise de partager votre groupe avec LFI ?
Écoutez, je pense qu'en ce moment, il y a des difficultés pour les Français qui sont tellement fortes. Je pense au pouvoir d'achat, la question de la réforme des retraites, j'espère que l'on va pouvoir en parler, qui fait qu'il est de la responsabilité des forces de gauche et écologistes, nous tous, réunis au sein de cette nouvelle Union populaire, de notre responsabilité de montrer que nous portons des solutions, qu'il y a une alternative à gauche qui peut permettre d'apporter des réponses aux Français à leurs problèmes de salaire, de pension, de pouvoir d'achat, de hausse des prix. Et donc, on est là-dessus. Et c'est ça notre combat, et rien d'autre que ça.
Rien d'autre que ça ?
Ben oui.
Bah, visiblement, à LFI, il y a quand même d'autres combats qui se mènent en coulisses, puisqu'il y a eu donc cette décision de changer la tête de LFI, aussi parce que Adrien Quintenin, on va y revenir, ne pouvait plus rester coordinateur. Et puis, lorsque Manuel Bompard a donc été choisi dans des circonstances assez complexes, un peu floues, c'est en tout cas ce que disent certains membres de LFI. Il y a Raquel Garrido qui dit on ne va pas se laisser faire. Il y a François Ruffin qui parle d'un rétrécissement. Il y a Clémentine Autain qui parle d'un repli, d'un verrouillage brutal. Mais non, ça vous intéresse pas, vous regardez pas, c'est quand même vos partenaires ?
Oui, mais ça ne m'intéresse pas. Je vous avoue sincèrement, chaque force politique ou mouvement, puisque la France insoumise est un mouvement, c'est pas une force politique, a son mode de fonctionnement, a ses règles de vie. Elles font l'objet de commentaires à l'extérieur, elles font l'objet de débats à l'intérieur aussi. Mais enfin, il y a des débats partout. C'est comme ça aussi quand on a un congrès. Nous, on va tenir le nôtre au mois d'avril. Mais franchement, enfin, là, je suis à l'antenne chez vous à une heure de grande écoute. On est à quelques jours des fêtes de Noël. Vous pensez pas qu'il y a des sujets de préoccupation un peu plus importants pour les Français que
Fabien
de savoir
Roussel,
qui,
vous,
quoi ou comment ça se passe.
Vous êtes extrêmement attaché aux règles, à l'autorité, au respect d'un certain nombre de
mais
points. On voit qu'il n'y a pas eu de vote à la France insoumise. Et même à cette question-là, Manuel Bompard a répondu, le vote n'est pas l'alpha et l'oméga de la démocratie. Vous êtes d'accord avec ça ?
Mais c'est pour ça que... Mais non, je ne suis pas d'accord, puisque nous avons d'autres règles de fonctionnement qui sont différentes entre un parti et un mouvement. C'est toute la différence, justement, dans un parti politique, que ce soit chez les Verts qui viennent de tenir leur congrès, les socialistes qui vont l'avoir, voilà, chez les Républicains aussi, on sollicite les adhérents, et puis ensuite, selon les modes de fonctionnement, il y a différents étages, on part de la base jusqu'au sommet pour décider et des orientations et des directions pour les mettre en œuvre. Nous sommes très soucieux, nous, au Parti communiste français, de cette démocratie. Il y a des débats, des désaccords, des différences d'analyse. On les exprime. On est vieux de 100 ans d'histoire. Et justement, nos racines, elles puisent dans cette exigence démocratique que nous avons pour nous-mêmes. comme pour le pays. Mais ça, c'est nous. Mais je ne fais pas de commentaires. Permettez-moi.
Je voudrais juste rebondir sur une chose que vous dites. Je comprends très bien que vous soyez moins à l'aise là-dessus et que vous ayez envie de parler du reste. Mais vous inquiétez pas, on va en parler des retraites et du pouvoir d'achat. Mais quand même, vous dites précisément, vous dites ce que nous faisons au Parti communiste, on se l'applique à nous-mêmes parce qu'on veut l'appliquer au pays. Quand vous avez quelqu'un qui prend la tête de la France insoumise et qui dit le vote n'est pas l'alpha et l'oméga de la démocratie, est-ce que pour le pays, c'est pas un problème ?
Mais c'est d'abord le choix des militants ou des sympathisants, enfin ils ont leur mode de fonctionnement, des adhérents de la France insoumise.
Oui, mais le modèle, ils ont vocation à diriger la France. Est-ce que c'est une manière de voir la démocratie qui vous convient ?
Ben, pour nous, le vote est le moyen d'obtenir les changements dans un pays. Mais je ne pense pas que la France insoumise conteste cela. La démocratie, ça passe par les urnes, ça passe aussi par les mobilisations sociales. Quand justement le Parlement est bloqué par des 49-3, et on n'a pas de différence entre nous là-dessus, entre forces politiques de gauche, écologistes, au sein de la NUPES, nous sommes nous pour une transformation profonde de notre pays par les voies démocratiques, par le vote, par les urnes, et il n'y a pas de
vous
débat
vous
entre nous là-dessus.
En tout cas,
le fonctionnement interne, c'est différent. Nous ne défendons pas
le fonctionnement interne soit différent, mais vous-même vous disiez que votre fonctionnement interne était le reflet de ce que vous souhaitiez à l'extérieur. Je n'ai fait qu'appliquer ce que vous disiez
que
et ça laisse un peu de doute.
Oui,
enfin, avant de parler un peu de vous, il y a quand même aussi d'Adrien Quatennens dont je voudrais parler un instant, puisqu'Adrien Quatennens refuse de démissionner, alors que certains, notamment dans le groupe écologiste, l'y invitent. Il était au micro de Bruce Toussaint hier et il a annoncé qu'il reviendrait en janvier. Écoutez.
Je reviendrai vraisemblablement dès le mois de janvier à la reprise des travaux parlementaires. Je respecterai la décision collective qui a été prise dans un cadre démocratique bien poussé de la part de mon groupe, qui est de faire en sorte que je ne puisse pas siéger sur leur banc pendant une période de 4 mois avant de les réintégrer. Il est temps que j'y retourne. Le travail en circonscription n'a pas cessé. Ma permanence parlementaire a été ouverte quasiment tous les jours de cette période. J'ai moi-même eu de l'activité en circonscription.
Son retour en janvier, ça vous paraît acceptable, compréhensible ?
D'abord, il a reçu une condamnation pour violence conjugale. C'est grave. La justice est passée. Elle a prononcé une condamnation. Il faut en tenir compte. Je dis au passage que toutes les personnes qui subissent des violences conjugales n'ont pas la chance d'avoir une justice qui s'exprime aussi rapidement. Et là, quand même, on peut dire que c'est allé très très vite. Tant mieux. Je veux dire, j'aimerais bien qu'il y ait une justice aussi rapide pour tout le monde et que toutes les femmes qui subissent des violences conjugales puissent passer devant un juge aussi rapidement. C'est à noter quand même. Et ensuite, après, ça relève, encore une fois, de la France insoumise, de son choix personnel de revenir. En tout cas, pour nous, Parti communiste français, dans nos règles de vie, être condamné pour violence conjugale est une condamnation grave qui heurte les valeurs que nous défendons nous-mêmes. Et ce sont des condamnations, des cas qui ne permettent pas pour nous de présenter des candidats aux élections s'ils ont reçu une telle condamnation ou de siéger dans un groupe. Et donc nous demandons aux personnes qui ont de telles condamnations de démissionner de leur fonction. Ce sont les règles que nous appliquons. Mais
si c'était dans votre groupe, il n'aurait pas été suspendu 4 mois comme ça a été décidé.
Vous
auriez demandé une démission du groupe.
Tout
en tout cas, vous ne l'auriez plus accepté dans votre groupe, y compris dans 4 mois.
Tout à fait.
Les choses sont très claires là-dessus, Fabien Roussel. Revenons justement à la fois aux retraites et à l'éducation. Voilà deux points que je voudrais aborder avec vous. Les retraites d'abord. Finalement, c'est repoussé à janvier, le 10 janvier, présentation du projet du gouvernement. 65, 64 ans. Est-ce que vous avez l'impression là que vous avez gagné une première manche ?
Non, d'abord, ça ne fait que commencer. Ce que je voudrais dire en commentaire pour les Français, les Françaises qui nous écoutent ce matin, c'est qu'avec le président de la République, le mois de janvier qui s'annonce va être terrible. Avec le président de la République, tout augmente en janvier. C'est la fin de la ristourne sur l'essence, les 10 centimes. C'est le prix de l'électricité qui va augmenter de 15%. Et c'est aussi l'âge de départ à la retraite qui va être mis sur la table. Ou l'allongement de l'âge de départ, ou l'augmentation des cotisations. Tout augmente, sauf les salaires et les pensions. Ça, c'est le programme pour le mois de janvier. Eh bien, bonjour les dégâts. C'est extrêmement dur. Et nous disons, nous, qu'il n'y a aucune justification pour que la retraite, pour que les Français augmentent l'âge de départ du travail, pour que les Français travaillent plus longtemps. Rien ne justifie l'allongement de l'âge de départ.
Donc pour vous,
ce
n'est même pas que vous voudriez changer ce projet, c'est que vous voudriez qu'il retire le projet.
Il doit retirer ce projet. Nous voulons mettre à l'ordre du jour, au contraire, une réforme des retraites qui prévoit l'allongement des pensions, une meilleure prise en compte de la pénibilité, des carrières longues, des carrières hachées, mais pouvoir financer ça sans demander aux Français de travailler plus longtemps, car nous produisons suffisamment de richesses pour le faire. Mais ce que je voudrais dire, c'est que nous voulons d'abord un grand débat dans le pays. Ayons ce débat avec les Français. Je lance un appel solennel à Elisabeth Borne. Je le dis ici. Je lui fais une demande. C'est qu'elle n'utilise pas le 49-3 pour faire passer cette réforme. Nous avons besoin d'un grand débat dans le pays, voire un référendum. C'est le sens de la pétition que nous lançons sur le site unebonneretraite.fr. Unebonneretraite.fr pour signer une pétition pour demander un grand débat démocratique dans notre pays, pour une autre réforme des retraites, pour un autre financement d'un modèle progressiste de retraite par répartition, et pourquoi pas pour un référendum à la fin. Ayons un grand exercice démocratique dans le pays sur la réforme des retraites.
Fabien Roussel, plusieurs points. Vous dites d'abord pas de 49-3 sur les retraites, c'est-à-dire que vous considérez que les retraites ne doivent pas être passées comme ça au forceps. Ah,
mais ça serait
doit
terrible,
être un débat.
Mais vous rendez compte la crise démocratique dans laquelle nous sommes. 8-49-3 sur la sécu, sur le budget, et on n'en rajoute rien.
Technique, quand on joue là-dessus, les 8-49-3, en réalité, c'est un seul à la fin. C'est comme si on en remettait un à chaque chapitre.
Non, mais vous rigolez, on discute entre nous, et la gauche et la droite, sur des amendements que nous votons. Non,
mais à quoi ça sert de dire il y en a 9, en réalité, il y en a un gros qui se décline en plusieurs chapitres. Voilà, faut quand même pas non plus dire n'importe quoi.
On s'est pris pratiquement 10-49-3 et que la menace
sur le même texte,
d'un 49-3 sur les retraites existe. Je demande à la Première Ministre de se prononcer clairement, directement, les yeux dans les yeux, auprès des Français. Je n'utiliserai pas le 49-3 sur la réforme des retraites, car je suis pour le dialogue, je suis pour le débat constructif avec les Français. Parlons-en dans les usines, dans les ateliers, dans les services publics, sur les lieux de travail, dans les facultés, avec les jeunes. Parlons-en dans tout le pays sur la manière de financer une vraie et une bonne réforme des retraites.
Ce référendum, vous demanderiez quoi aux Français? Ce serait quoi la question?
Mais comment financer une bonne réforme des retraites?
Et vous voulez que chacun y réponde avec leur
proposition? Nous sommes tous d'accord pour dire que les retraites sont trop basses. Les pensions sont basses, notamment pour celles qui ont des carrières hachées.
Il faut augmenter.
Le sujet, c'est d'augmenter.
La question, c'est est-ce que c'est faisable?
Le sujet, les pensions n'ont même pas augmenté au niveau de l'inflation. Aujourd'hui, les retraités perdent des sous en ce moment.
L'inflation, justement, Fabien Roussel, à l'instant, elle vient d'être annoncée. Les chiffres de l'INSEE viennent de tomber. C'est 6,2%, donc une inflation stable mais très élevé pour le mois de novembre.
C'est une inflation terrible, 6,2 en moyenne, mais entre 12 à 15% sur les produits alimentaires. C'est les fêtes de Noël, je vois que la raclette, elle va augmenter de 11% aussi. Ce sont des produits élémentaires qui augmentent de manière excessive, le beurre, le lait, les pâtes, la farine, le café. Comment on va vivre? Et je vois aujourd'hui aussi des enfants obligés de faire de suivre des cours dans le noir et de s'allumer à la lampe torche, des gymnases qui ne seront plus chauffés avec des clubs de sport qui vont faire leur entraînement dans le froid à 7, 10 degrés. Mais enfin, en France, dans le pays des Lumières, où on a tant d'atouts, tant de compétences, tant de savoir-faire, nos enfants ne doivent pas avoir froid, ils ne doivent pas avoir moins à manger dans leur assiette à la cantine.
C'est ça la
force de notre pays, ça devrait être de garantir à chaque Français qu'ils seront chauffés cet hiver, à nos enfants qu'ils auront une assiette correcte à la cantine et qui ne coûtera pas plus cher. C'est ça l'ambition qu'une nation doit avoir pour son pays, c'est celle que moi je défends en tout cas.
Et les images auxquelles vous faites référence, c'est celles qu'on voit en ce moment même sur BFM TV. Ce sont ces images qui ont été révélées par RMC, qui a vu ce lycée, donc le lycée Voilôme, à Aulnay-sous-Bois, où il n'y a pas d'électricité parfois, pas de chauffage, des fenêtres qui ne ferment plus, et des enfants qui doivent en effet parfois, des lycéens qui doivent en effet suivre des cours avec leur manteau, leurs gants, et parfois à la lampe de leur téléphone.
Voilà, c'est terrible ça. Et pourquoi c'est dans un lycée de Seine-Saint-Denis, à Aulnay-sous-Bois? sous-bois dont les enfants devraient subir ça. Est-ce que ça arriverait dans un lycée de Neuilly, de Versailles, des quartiers riches du 16e arrondissement de Paris? Et ça, c'est insupportable pour les familles, pour nos enfants, que ce sont toujours les mêmes qui subissent l'austérité, qui subissent les privations. Eh bien, il est temps de l'égalité et de la justice pour tous et tous les Français, en banlieue, comme dans les territoires ruraux, comme dans les grandes villes, doivent avoir le droit d'être chauffés.
Il y a une France à deux vitesses, il y a une injustice, il y a une division sociale.
Il y a clairement une France à deux vitesses, et justement, je dis que nous avons suffisamment de compétences, d'outils dans notre pays, de savoir-faire d'hommes et de femmes prêts à être mobilisés. Je pense à ceux d'EDF, de GRDF, d'ailleurs qui se battent pour leur hausse de salaire, qui sont prêts aujourd'hui à produire tous les efforts qu'il faut.
Qui se battent pour leur hausse de salaire, mais qui, pendant ce temps-là, il y a certaines personnes qui se retrouvent sans chauffage parce qu'il y a des grèves.
Non, madame de Malherbe, ça a été rectifié sur TF1 et la dame qui a été rétablie, justement, c'est par ceux qui font grève aujourd'hui qui rétablissent l'électricité et le gaz à ceux qui ont été coupés.
Ils les avaient coupés, hein.
Normalement, en termes de. Non. En termes, aujourd'hui, c'est la trêve hivernale. Personne ne doit être coupé, privé de chauffage et de gaz. Or, il apparaît, je suis en train de mener l'enquête, que malgré tout, GRDF fait des coupures de gaz à des personnes qui ne sont pas en possibilité. Par le biais de sous-traitants. Si tel était le cas, je le dénoncerai et je le porterai à la connaissance de la directrice de GRDF, parce que c'est inadmissible. Et il y a des gens aujourd'hui qui, parce qu'ils ont des factures de gaz et d'électricité tellement élevées, avec des régules de charge, eh bien qu'ils vont devoir faire le choix entre leur loyer ou leur facture d'électricité ou se nourrir. C'est la France qui est une grande puissance économique, et regardez jusqu'où ils nous ont menés aussi bas. C'est une honte. Je veux sortir de ce libéralisme, de cette concurrence, de ces privatisations qui nous conduisent aux privations. Je veux l'égalité. L'égalité pour tous, car nous avons les moyens de chauffer tout le monde.
Fabien Roussel, secrétaire national du Parti communiste français et député du Nord, merci d'avoir répondu à mes questions. Il est 8h54 sur RMC BFM TV.
RMC Football. Samedi à 15h au Stade de la Mosson à Montpellier, c'est la finale de la Coupe de France féminine. Le Paris Saint-Germain affronte le FC Fleury 91 pour un match au sommet. Qui décrochera le titre? Réservez vos places sur billetterie.fff.fr. PSG Fleury. Finale de la Coupe de France féminine, samedi à Montpellier avec RMC.